1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Nos deux premiers volets, Christelle Bernat, s'achevaient sur le portrait de Luther comme homme de synthèse, d'un réformisme pluriséculaire. Mais Luther peut-il être tenu pour un simple héritier des théologiens, des exégètes et des philologues passés ?
Non, assurément Guylaine, car Luther se trouve bel et bien à l'origine d'un basculement de la chrétienté. Il faut dire qu'en postulant un autre rapport à Dieu, affranchi, nous le verrons, de la tutelle ecclésiastique, c'est-à-dire à la fois de celle du pape, mais aussi de celle du prêtre à l'échelle de la paroisse, et de la prétention romaine à détenir le monopole du sens des Écritures, Luther se trouve en effet au seuil d'une révolution de la chrétienté. Mais cette révolution est le fruit d'un long parcours, d'un parcours qu'on peut dire accidenté, fait de tâtonnements et en somme de découvertes progressives. Et je crois que pour comprendre le réformateur de Wittenberg, il faut considérer le moine d'Erfurt, c'est-à-dire prendre en compte une trajectoire, un itinéraire, évaluer les pleins et les déliés d'une vie et d'une œuvre, on va voir, qui est assez dense, aussi stimulante que complexe et surtout tourmentée. Pourquoi ? Parce que Luther partage l'angoisse de fin de siècle qui s'empare des chrétiens. Il faut rappeler qu'à la fin du Moyen-Âge, qui est l'époque des souffrances indicibles, hein, liées notamment aux guerres, aux épidémies, aux famines dévastatrices, eh bien ces souffrances participent à l'angoisse de l'homme, écrasé hein, sous le sentiment de son péché, désemparé devant l'immensité, mais aussi le caractère absolu et la pureté de Dieu, apeuré par le sentiment d'un éloignement de l'éternel et par l'absence de réponse apaisante à cette question lancinante qui s'empare de tous les chrétiens. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Or, cette crise survient au moment où l'Église romaine ne participe plus au réconfort des âmes angoissées, où au fond, l'absolution délivrée par une hiérarchie dénigrée ne suffit plus à calmer les esprits. Les fidèles, qui sont en mal de certitude, ne sont plus soulagés par le discours de l'Église traditionnelle. Et le renvoi à la responsabilité de l'homme, de même que l'émergence d'une approche comptable de la foi qui passe dans une course aussi vaine qu'effrénée d'ailleurs par la multiplication des œuvres et ce que Jacques Schiffolo appelait un foisonnement rituel pour tâcher précisément de se sauver, ne firent au fond qu'aiguiser la crainte du salut en faisant mesurer à l'homme autant l'ampleur de ses devoirs que son impuissance face à Dieu. Comment s'assurer de le satisfaire ? Comment s'assurer d'en obtenir la miséricorde ? Sont là deux grandes questions. Et Luther, qui est l'un de ses croyants apeurés, ne trouve pas d'emblée la clé à son trouble. Il n'élabore pas ses 95 thèses, ni le principe du sola gratia en un jour, pas plus qu'il n'a l'idée, ni même l'ambition de fonder a priori une église nouvelle. Et il faut le souligner, c'est qu'avant d'incarner le chef de file de la Réformation, d'être en quelque sorte forcé à la rupture par Rome, Luther est un moine tourmenté qui cherche d'abord à soulager sa crainte d'être lui-même écarté de Dieu. Et je crois que c'est très important de s'arrêter sur ce parcours tortueux au cours duquel naît véritablement la découverte réformatrice fondamentale de Luther.
Alors commençons, Christelle Bernat, par rappeler que rien au départ ne destinait Martin Luther à la carrière ecclésiastique.
Vous avez tout à fait raison. Hein. Luther, qui est issu d'une famille modeste mais en voie d'ascension sociale, est encouragé à engager des études mais plutôt en direction du droit. Et il amorce sa formation à Mansfield au contact des frères de la vie commune. C'est intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement laïque de dévotion chrétienne qui est lié au courant de la dévotion moderna qui, à revers de l'approche de Thomas d'Aquin qui postulait que Dieu était accessible par la raison, eh bien ce courant défend plutôt qu'il ne l'était que par la révélation des Écritures et surtout par la foi seule, hein, ce qui n'est pas sans intérêt pour la suite. Après son entrée à la faculté de droit, à la grande et prestigieuse université d'Erfurt, Luther va en quelque sorte renverser le projet du père. En juillet 1505, il interrompt en effet ses études et entre au couvent des Augustins d'Erfurt. C'est le fameux épisode de l'orage qui veut qu'au retour d'une visite à Mansfield, Luther, hein, qui faillit être frappé par la foudre, fit vœu de devenir moine s'il en réchappait. et il va tenir sa promesse. Il entre quelques jours plus tard chez les Augustins. Mais derrière cette petite anecdote, il y a, je crois, un indice qui nous importe au premier chef. C'est-à-dire que Luther n'opte pas pour un ordre religieux parmi d'autres, mais pour un ordre rigoriste, réputé pour la sévérité de sa règle, associée notamment à une pénitence permanente, et surtout voué en particulier à la prédication. Et n'oublions pas qu'à cette période, ce faire moine répondait encore au modèle de perfection chrétienne. On pensait tout simplement, mais fermement, que dédier sa vie à Dieu était la meilleure façon d'espérer s'en rapprocher.
Alors que se passe-t-il ensuite?
Eh bien, il est ordonné prêtre en 1507 et Luther se trouve rapidement repéré par le supérieur de son ordre, Johannes Stopitz, qui l'engage à faire de la théologie. Et là débute en quelque sorte sa formation qui n'était pas en ces temps liée à l'ordination. Il enseigne très vite la philosophie à Wittenberg et il poursuit en parallèle sa formation théologique à Erfurt. Et une fois docteur en théologie, il est nommé professeur des Écritures, autrement dit professeur d'exégèse à Wittenberg. Et cela nous intéresse en particulier dans la mesure où c'est cette fonction qui l'amène aussi à commenter les psaumes, puis les épîtres de Paul aux Romains, aux Galates, aux Hébreux, qui leur sont alors attribués, à Paul. Et ce sont ces commentaires qui, entre 1513 et 1518, jalonnent en quelque sorte la progression de son approche de Dieu.
On peut dire alors que la machine est lancée.
Oui, tout à fait. La nouveauté de sa lecture, en tout cas, réside, on le voit très vite, dans le christocentrisme et la radicalité du propos de Luther, qui va se concentrer sur le paradoxe de la croix et du salut. Et sa lecture des psaumes, qui le conduit à reconsidérer le sacrement de la pénitence, eh bien, il le fait en la plaçant sous le signe de la croix, et cela va induire la justification du pécheur. Luther engage là, je crois, une lecture libérale, où la pénitence n'est plus, pour le dire avec Michel Leplay, un ensemble d'actes prescrits, mais un mouvement profond et permanent du cœur. Il comprend alors que le croyant est simultanément et indissociablement toujours pécheur, toujours juste, toujours pénitent.
Mais la révolution luthérienne ne procède pas seulement d'une étude scrupuleuse des textes.
Non, là aussi vous avez raison, elle est également le fruit d'une longue quête du salut, d'un combat extrêmement douloureux, je le disais en ouverture, d'un combat pour acquérir la certitude du salut. Et cette angoisse obsessionnelle est centrale, constitutive de la réflexion de Luther. Plus encore, on peut dire qu'elle préside à toute sa démarche. Et on sait, si l'on sait fort peu de choses sur le Luther d'avant 1517, eh bien, des témoignages rétrospectifs de Luther offrent néanmoins de saisir la représentation qu'il a lui-même de l'évolution de sa pensée. On va y revenir, j'imagine. Mais disons que sa correspondance livre des éléments d'intérêt. Et je songe là en particulier à l'une de ses lettres adressées à son frère Augustin, Georges Spendlein, qui permet de saisir combien la question du salut l'agitait. Au fond, ce salut s'obtient-il par les mérites de l'homme, autrement dit par ses propres forces, ou bien s'obtient-il par l'intervention et la justice de Dieu, indépendamment de toute action humaine? Eh bien, sa lettre révèle qu'il s'agit là d'une question existentielle pour tout un groupe du couvent d'Erfurt, qu'il partage donc avec d'autres moines. Et Luther cherche à trouver la clé de son trouble dans la croix et dans l'image du Christ crucifié. Dans cette lettre, il y interroge la justice gratuite et il entend combattre ce qu'il appelle lui-même l'erreur, c'est-à-dire l'erreur de penser gagner le salut par les mérites. Voici ce qu'il lui écrit en 1516. La tentation, dit Luther, de la présomption brûle en effet à notre époque dans le cœur de beaucoup de gens, et principalement de ceux qui cherchent de toute leur force à devenir bons et justes. Ignorant la justice de Dieu, qui nous est donnée abondamment et gratuitement en Christ, ils cherchent par eux-mêmes à faire des bonnes œuvres, jusqu'à ce qu'ils soient certains de comparaître devant Dieu, ornés de leurs vertus et de leurs mérites, ce qui est impossible. Tu as aussi partagé cette opinion, ou plutôt cette erreur. Je l'ai moi-même aussi partagée. Maintenant, je combats cette erreur, mais je ne l'ai pas encore vaincue. Donc, mon cher frère, apprends à connaître le Christ et le Christ crucifié. Prends garde d'aspirer un jour à tant de pureté que tu ne voudras plus voir en toi le pécheur tout en l'étant. Le Christ n'habite que chez les pécheurs. Réfléchis bien à ce grand amour et vois-y la plus douce des consolations. En effet, s'il convient de parvenir à la quiétude, dit Luther, de la conscience par nos efforts et nos épreuves, pourquoi donc est-il mort? Tu ne trouveras donc la paix qu'en lui, après avoir désespéré de toi-même et de tes œuvres. Tu apprendras que de même qu'il s'est chargé de toi et qu'il a fait sien tes péchés, de même il fait tienne ta justice. Donc, on le voit à travers cet écrit. En 1516, Luther tâtonne. Il est en recherche, mais déjà se profile et s'énonce la gratuité de la justice de Dieu. Pourtant, son inquiétude s'exaspère. Et malgré l'ascétisme, malgré les mortifications qu'il s'inflige, Luther demeure rongé par une conception tragique du péché. Aucune pratique, ni d'humiliation, ni de contrition, ne parvient véritablement à soulager sa conscience. Et précisément, cette conscience de l'inutilité absolue des œuvres pour garantir son salut l'amène aux frontières du désespoir. Luther est, en 1516, en proie à une profonde crise spirituelle. Et il est pour les historiens assez délicat de retracer la chronologie exacte de sa découverte. Néanmoins, on sait que c'est devant la difficulté à interpréter l'épître aux Romains qu'il aurait saisi que l'homme est sauvé par la foi que le Christ lui donne. Et la réponse à son questionnement est dans Paul, en Romains 1, 17, à partir d'une méditation sur ces phrases « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile et le juste vit de la foi ». Phrase qu'il dit avoir comprise tardivement après avoir longuement buté sur ce passage des Écritures. Et là, Luther en vient à comprendre, à travers Romains 17, que la justice de Dieu est en l'homme par la foi. Il passe ainsi du désespoir, exprimé dans des termes passionnels, parfois même sacrilèges, où il exprime sa défiance, ses doutes, jusqu'à son envie de haïr et de blasphémer Dieu, à la découverte de cette justice, exprimée sur le mode d'une véritable renaissance, et même en termes de résurrection. Et c'est en étudiant l'Épître aux Romains que Luther trouve à la fois l'éblouissement, mais aussi la délivrance, passant de l'image d'un Dieu juge à celle d'un Dieu père. Voici d'ailleurs comment Luther raconte cette découverte dans la préface à l'édition de ses œuvres de 1545. « Pendant que je méditais, dit-il, jours et nuits, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. » Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais la justice passive, par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, dit-il, je me sentis renaître, et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même.
Merci Christelle Bernat.
Merci à vous.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions, 500 ans de réforme, protestants 2017, vivre la fraternité.